Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, Alliance Plus 103.1 à Nîmes et qu'on peut écouter également sur internet sur le site www.fmplus.org avec Stéphane Marin à la technique. Je suis très heureuse de recevoir comme invitée aujourd'hui Annie Estève, passionnée de poésie, directrice artistique de la programmation à la Maison de la Poésie de Montpellier-Languedoc. Elle va nous parler aujourd'hui de la Maison de la Poésie et du programme du Printemps des Poètes de cette année. Bonjour Annie.
Bonjour Marie-Agnès, merci de me recevoir.
Avec grand bonheur. Raconte-nous un petit peu aujourd'hui cette aventure avec la création de la Maison de la Poésie. Quand le projet est né, les batailles qu'il t'a fallu livrer pour mener à bien cette création, les difficultés auxquelles tu t'es heurtée.
Oui, alors je retiendrai plutôt le mot d'aventure que celui de bataille, parce que je ne crois pas que ce soit un vocabulaire guerrier qui soit nécessaire. C'est vrai parce que les choses se sont enchaînées assez facilement à partir du moment où l'équipe a été constituée autour d'un désir commun, c'est-à-dire qu'au départ il y a eu 3 personnes, hein, il y a eu donc moi enseignante, Jean Joubert le poète qui était le parrain de l'atelier poésie du collège où j'enseignais, et puis Fanette de Bernard, libraire qui avait dirigé pendant plusieurs années donc la fameuse librairie Molière où nous nous retrouvions autour des grands auteurs invités par Jean et Fanette de Bernard dans la fameuse et mythique cave Molière. Voilà, donc il y avait un plaisir commun à être ensemble et puis la même envie pour tous les trois de créer un lieu dans lequel on pourrait à nouveau faire vivre ce genre de rencontre à Montpellier. Voilà, alors c'est vrai que chacun a travaillé dans le domaine où il pouvait agir. Donc j'ai constitué un projet, c'est sur les conseils, comme je le racontais aussi, je l'ai assez souvent raconté, c'est sur les conseils de Marie-Claude Char, que j'avais rencontré à Lille-sur-Sorgue. Je suis allée trouver Jean-Pierre Siméon. J'ai écrit à Jean-Pierre Siméon, directeur artistique de la structure nationale Printemps des Poètes, et poète lui-même. Et il a répondu à mon courrier en me demandant de venir le voir à Paris pour lui présenter le projet. Et voilà, cela s'est merveilleusement passé. J'ai rencontré l'équipe du Printemps des Poètes. Jean-Pierre Siméon est extrêmement chaleureux et cordial. D'ailleurs, depuis, nous avons noué une belle amitié. Et donc, à la fin de l'après-midi, que nous avons passé ensemble avec son équipe, il m'a dit, eh bien, on va aider la future Maison de la Poésie rêvée pour l'instant. Et on va t'aider à la mettre en place à Montpellier. Et là, donc, on a constitué autour d'un groupe d'amis un comité de parrainage. Et dans ce comité de parrainage, il y avait bien sûr Jean-Pierre Siméon. Et il y avait, outre notre cher Jean Joubert, Frédéric Jacques Temple. Voilà, donc c'est vrai que là, tout de suite, on a eu une très belle crédibilité. Et finalement, les portes nous ont été ouvertes assez vite auprès des institutions et des collectivités. La seule chose, évidemment, c'était la question du lieu, hein, du local. On a mis un peu plus de temps à l'obtenir. Il faut dire quand même que durant la période où nous avons été nomades, plusieurs institutions, plusieurs lieux nous ont accueillis avec une générosité que je tiens à souligner et dont je les remercie à nouveau. Il y a eu Luc Bremer, hein, qui a fait la démarche de venir me trouver et qui me connaissait puisque j'étais une enseignante qui amenait souvent les élèves au Théâtre Jean Villard. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux Annie, on peut faire un partenariat et tu pourras organiser les soirées de la Maison de la Poésie au Théâtre Jean Villard. Ça a été vraiment formidable, parce que tout de suite on a été visible et on a bénéficié de l'immense pouvoir de communication du théâtre, et en plus très chaleureusement accueilli par l'équipe. Il y a eu aussi le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération, avec monsieur Gudin Valerin qui nous a ouvert les lieux, que ce soit la médiathèque centrale ou les médiathèques du réseau, et nous avons fonctionné comme ça, comme des petits coucous là, en allant dans le nid des autres. Et on s'est fait connaître de cette manière, avec on a senti une grande, on sentait qu'on suscitait la sympathie et l'envie chez toutes les associations de poésie, notamment qui existaient déjà à Montpellier, puisqu'on a été bien précédés. Hein. Donc il y avait un réel besoin, je crois, autour de, spécifiquement de la poésie à Montpellier. Et c'est ensuite grâce à Jean que l'on a obtenu le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Si tu peux nous préciser.
Voilà, je vais préciser l'adresse, dans le Moulin de l'Évêque, 78 avenue du Pirée.
Oui, c'est en entrant dans Montpellier.
En entrant dans Montpellier quand on arrive de l'aéroport. Et donc on partage le même bâtiment que le cinéma, le Festival du cinéma méditerranéen. Et nous sommes voisins de la médiathèque centrale. Il y a un parking tout autour de... Nous sommes sur un îlot, donc, et entourés par un parking. Donc on peut facilement se garer et venir nous voir. Et puis facilement aussi nous rejoindre en tram, hein, puisqu'on a plusieurs lignes de tram qui passent aux abords de la maison. Voilà.
Alors Annie, tu te situes également dans la transmission de la parole poétique, que cela soit au travers des soirées de poésie ou à destination d'un public plus juvénile. Il y a d'ailleurs des lectures qui sont organisées à la médiathèque de Castries et qui font participer des enfants, les enfants de l'école primaire, je crois.
Oui, voilà, en tant qu'enseignante, j'ai gardé un côté militant pour bon, bien sûr l'éducation et puis dans son ensemble, voilà la littérature qui nous ouvre au monde et bien entendu la première des paroles la plus précieuse, celle de la poésie. Donc j'ai beaucoup d'alliés dans le milieu enseignant et j'ai gardé beaucoup d'amis. Et là à Castries, alors s'il faut parler spécifiquement de ça, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que en fait c'est un partenariat entre la Maison de la Poésie, la médiathèque de Réseau, la médiathèque Françoise Giroux et l'école Marcel Pagnol. Et c'est une histoire d'amitié aussi entre moi, la responsable de la médiathèque, Brigitte Mora, et les instituteurs de l'école Marcel Pagnol, qui depuis des années ont instauré le rituel de venir assister à toutes les soirées poésie qui sont organisées dans la médiathèque, alors même qu'elles ne sont pas destinées aux enfants. Et c'est-à-dire que là, les enfants ont pu rencontrer, et même avoir, les élèves hein, de l'école ont pu rencontrer, même avoir des moments de discussion privilégiés, particuliers, avec de très grands poètes. Ils ont rencontré bien sûr Jean Joubert, bien sûr Frédéric Jacques Temple, François Zabot, ils ont rencontré Charles Julliez, François Montmanex, donc tous les poètes que nous avons fait venir se sont également adressés aux enfants. Et chaque fois qu'une soirée a lieu, eh bien, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les élèves de l'école viennent avec leurs instituteurs, mais aussi leurs parents, qui peut-être, eux, ne seraient jamais, n'auraient jamais osé pousser la porte.
Maintenant, Annie, nous aimerions découvrir quelques textes que tu destinerais aux enfants, des lectures de poèmes, par exemple.
Oui, alors, comme je le disais, en fait, les enfants sont capables d'entendre toute forme de poésie et tout poète. Mais c'est vrai que là, si on me demande quel texte je choisirais pour sensibiliser les enfants à ce que peut être la poésie, leur... une première approche en quelque sorte, je choisirais des haïkus de Jean Joubert. Je les choisirais parce que c'est vrai que on l'a déjà fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme on dit, qui marche très bien, puisque les enfants ont d'emblée envie d'en lire et d'en écrire. Alors je vais choisir quelques haïkus qui sont extraits de Pluie de plumes et qui ont été publiés avec cette encre de Alain Lacouchy aux éditions Cahiers de poésie verte, collection Trobard. La flèche dans son vol perce l'oiseau. Pluie de plumes. Par temps de brume, l'âme comme une lampe au sommet d'une tour. Dans le champ des étoiles, quelle bête blessée laissa cette traînée de sang. Nuit d'hiver, dans son manteau de brume, la montagne tousse. Soir d'été, à l'horizon, la signature de l'orage. Au centre du jardin, la rose éparse rassemble son parfum. Soleil levant, l'oiseau rallie son double de lumière. Il a jeté des poissons volants dans le feuillage des chênes, le vent de mer. Papillon, palais de laine que l'hiver brûle sans bruit. Soleil couchant, les chats dorment sur le pré comme s'ils étaient immortels. Si tu hésites entre sept routes, prends la huitième, l'inconnu. Alors maintenant, je vais me permettre de lire un poème inédit que Jean Joubert m'a confié, qu'il a écrit en octobre 2014 et qui s'appelle « Oiseau ». Ils sont venus de l'autre côté de la terre, les grands oiseaux vivants, les innommés, les insoumis, ailes de flamme, visages d'hommes, souffles ardents sur les lèvres. Ils sont venus dans la saison de glace, guidés sur les chemins célestes par la sagesse des étoiles. La vie renaît, ils peuplent les jardins, le labyrinthe de nos songes. Nous partageons les fruits de nos vergers. Vers le soir, une femme a traversé le fleuve, géante, vêtue de feuilles, comme un arbre d'amour et de splendeur. Le vent s'est tu, elle est venue vers nous, et les oiseaux tourbillonnants se sont posés sur ses épaules, la revêtant d'un lourd manteau de plumes. Il n'y a désormais ni piège, ni tourmente, corps à corps, enlacés, dans l'oubli noir, nous effaçons le grondement des tueurs souterrains.
Dans cette poésie pour les enfants, tu as sélectionné aussi un texte de Paul Verlaine.
Oui, Verlaine, pour effectivement, bien sûr, son sens de la musique. Et puis, j'ai toujours adoré ce que fait Verlaine avec le vers, l'utilisation du vers impair m'enchante. Le fait qu'il le mélange aussi au vers pair, justement, puisque... Là, dans ce poème, on est un petit peu entre, j'allais dire dans l'esprit, on est un petit peu entre Baudelaire et Mallarmé, c'est magnifique. Alors vous allez le reconnaître, il est très connu, ce poème. Je ne sais pourquoi mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour le couvre au ras des flots. Pourquoi ? Pourquoi ? Mouette à l'essor mélancolique, elle suit la vague, ma pensée, à tous les vents du ciel balancée, et biaisant quand la marée oblique, mouette à l'essor mélancolique. Ivre de soleil et de liberté, un instinct la guide à travers cette immensité. La brise d'été, sur le flot vermeil, doucement la porte à un tiède demi-sommeil. Parfois, si tristement elle crie, qu'elle alarme au lointain le pilote, puis au gré du vent se livre et flotte et plonge, et l'aile toute meurtrie revole, et puis si tristement crie, Je ne sais pourquoi, mon esprit amer, d'une aile inquiète et folle, vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher, d'une aile d'effroi, mon amour le couvrira des flots. Pourquoi ? Pourquoi ?
La Maison de la Poésie est l'acteur de référence qui va centraliser les événements en poésie autour du Printemps des Poètes de cette année. Pourrais-tu, Annie, nous citer quelques-uns des temps forts de la programmation de ce Printemps des Poètes à Montpellier ?
Oui, alors le Printemps des Poètes se déroule donc du 7 au 22 mars, nationalement. Il y a, le lancement se fait le 7 mars. Et donc, le thème cette année, c'est l'insurrection poétique. Alors, nous avons décidé de traiter le thème dans la programmation et nous allons rendre hommage à deux grands poètes, hein, Yanis Ritsos, La Voix de la Grèce. Alors, parce que justement, nous avons l'intention d'inviter à nouveau notre ami Bruno Doucet, qui est un partenaire, hein, depuis plusieurs années de la Maison de la Poésie de Montpellier, puisque nous aimons beaucoup la ligne éditoriale de sa maison d'édition. Et donc, les éditions Bruno Doucet publient un cinquième recueil de Yanis Ritsos. Et à l'occasion de cette parution, donc, nous allons rendre un hommage appuyé avec un spectacle qui a été conçu par Bruno Doucet, par Muriel Zach, qui est écrivain et éditrice, et puis par la chanteuse et musicienne Elisa Velia, qui va avoir nous faire le grand bonheur de lire Yanis Ritsos en grec. Voilà. Donc, on aura un récital poétique et musical qui va s'appeler « Ne pleure pas sur la Grèce » et qui sera donné à la médiathèque centrale Émile Zola. Je donne les dates, mais bien entendu, je précise que ce programme dont vous entendez un petit peu l'énumération, qui ne sera peut-être pas tout à fait chronologique dans ma présentation, vous pourrez le retrouver sur le site de la Maison de la Poésie, Montpellier-Languedoc. Vous pourrez le retrouver aussi sur le site du Printemps des Poètes, et puis sur le site de Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture. Et la Gazette le donnera aussi en intégralité. Et ce programme sera distribué vers son papier à l'Office de Tourisme de Montpellier et dans tous les lieux culturels, environ 15 jours avant le début de la manifestation. Voilà, alors pour en revenir à cette fameuse insurrection poétique, il y a aussi un autre auteur à qui nous allons rendre hommage, c'est Pasolini. C'est vrai que c'est un auteur que nous aimons beaucoup, mais cette année, c'est le triste anniversaire des 40 ans de son assassinat. Et donc, à cette occasion, nous allons lui rendre hommage en deux temps, en fait. La première fois, ça sera le 14 mars, et nous allons inviter deux de ses traducteurs, René de Secati et Nathalie Castagnier. Alors, René de Secati, que nous invitons souvent pour parler d'ailleurs de Pasolini, il était là aussi l'année dernière pour Les Sonnets à Ninetto. René de Secati publie le deuxième tome des anthologies de poèmes inédits en français de Pier Paolo Pasolini, La Persécution, aux éditions Point. Et il publie aussi une nouvelle traduction de Poésie en forme de rose aux éditions Rivage. Donc, il dialoguera avec Nathalie Castagnier, qui est elle-même traductrice de Pasolini et qui a traduit le fameux livre de Bellezza, Mort de Pasolini. Donc, nous aurons des lectures bilingues de Pasolini par René de Secati et Nathalie Castagnier le 14 mars. Et le lundi 16 mars, ce sera autour de l'anthologie publiée par les éditions La Passe du Vent, avec Thierry Renard, qui dirige cette maison d'édition à Lyon, qui est poète et éditeur. Et donc, les éditions La Passe du Vent publient une anthologie de textes autour de Pasolini. Thierry Renard présentera cette anthologie et sera entouré de deux des contributeurs de cette anthologie, Jean-Gabriel Cosculuela et Andrea Iaconella, qui est par ailleurs lui-même éditeur et que nous invitons le lendemain pour la présentation de sa maison d'édition qui s'appelle La Rumeur Libre et qui est domiciliée à Lyon aussi. Alors, je crois que d'ailleurs toutes les soirées de ce printemps peuvent bénéficier du titre « L'insurrection poétique ». Les auteurs sont tous insurrectionnels dans leur écriture et dans leur démarche. Le 17 mars, donc, Andrea Iaconella, l'éditeur de La Rumeur Libre, sera entouré de deux de ses auteurs. Eugène Durif, qui est aussi un homme de théâtre et un auteur dramatique connu, dont est très en vogue en ce moment d'ailleurs. Eugène Durif et Roger Dextre. Ce seront les deux auteurs autour d'Andrea, présents autour d'Andrea. Eugène Durif publiant pour la première fois la totalité de ses écrits poétiques à La Rumeur Libre. Et le lendemain, le 18 mars, nous aurons l'énigme de la phrase autour de l'œuvre de Patrick Lopin qui viendra nous présenter son dernier travail, L'alphabet des oubliés. Il sera en dialogue avec Anne Brouhan. Voilà, alors ces événements-là se passeront à la Maison de la Poésie de Montpellier. Il faudra être très attentif d'ailleurs au lieu, puisque cette année, nous serons à la fois à la Maison de la Poésie et dans le réseau des médiathèques. Voilà, donc ce ne sera pas comme l'année dernière, entièrement centralisé sur la Maison de la Poésie.
Donc nous allons écouter tout à l'heure quelques pages de Patrick Lopin, après la page musicale. Donc Annie va nous présenter une lecture de Patrick Lopin qui sera dont nous écouterons quelques textes à la Maison de la Poésie pendant ce printemps des poètes.
Oui, ça c'est un texte plus ancien. C'est Le retour au pays des mines, les visages et les voix, sous-titré Le chemin de la Grand Combe. Un retour au pays d'enfance après la fermeture des activités du bassin houiller d'Alès où Patrick Lopin a grandi. Alors, je vais tout de suite entrer dans la lecture du texte et oublier ce que je voulais dire au sujet de l'auteur. Ceux qui se souviennent. Je n'ai jamais oublié la cité des mines, accrochée à flanc de montagne, au pied du puits Fontaine et des galeries des Lumières. J'ai toujours éprouvé tenir mon langage de cette vallée arborescente de fougères, de cette terre austère et patiente rythmée par le labeur. Enfance, amour et mémoire, ce livre est le souvenir, toujours vivant en moi, de ceux de ma famille qui travaillèrent à la mine, et de tant d'autres, puisque, à cette époque, existait ce sentiment très fort, d'humains confrontés au même monde, aux mêmes obstacles, au devoir de lutter ensemble. Il ne s'agissait pas pour moi de restaurer un passé mythique du travail des mines, non plus de me livrer à une analyse sociologique, mais de me laisser écrire à travers les voix de ceux qui me donnèrent la parole. De laisser parler et entendre les voix des mineurs rencontrés, les voix de ceux qui se souviennent. Et je suis convaincue que des êtres restent à jamais séparés des autres lorsqu'ils ont une expérience impossible à transmettre. C'est rencontrer alors cette difficile, même impossible question. Que font les humains de la mémoire, des lieux du travail et des paysages où ils furent quand presque tout est détruit? Pour moi, l'écriture, la poésie, la pensée commencent avec cet abîme, cette impassibilité du muet, cette question impossible à transmettre. Dans la cité des mines, des rythmes orientaient la journée, même au cœur du plus difficile, puis tout fut détruit, les accords brisés et l'existence ne résonne plus. D'un mode d'existence qui ne se transmet pas, seul le corps garde la question muette. La destruction est alors aussi question de langage, car la division cesse d'être pensable quand les mots disparaissent. Visage, où nous gardons mémoire du disparu, car là nous fut donnée la vie. Visage, qui arrive dans la vitesse opaque du langage, à même le sonore, le muet. Visage fait pour le jour. En eux vibre toute une nature opale de l'éprouver. Comme si un mur, une secousse de langage inconnu dans nos corps résistait. Où naguère l'on ne se sentait plus pouvoir passer. En chacun sinue cette faille d'existence, seule capable d'indiquer le sens de nos progressions. Visage entouré de cette aura, ce halo d'air pâle, une lumière d'existence, ayant conquis leur présence jusqu'au bord du non-sens, de l'insignifiant. Portent à eux cet héroïsme simple, et cette noblesse que Mallarmé, évoquant Hamlet, attribue à la difficulté de surgir. Visage, pas n'importe lesquels, rigoureux, austères, marqués par l'obstacle, l'astreinte, l'empreinte inéluctable de la matière qu'ils affrontent. Naît de leur effort une durée spirituelle. Vois où s'entendent en nous ce qui chancelle, tremble, l'ardente présence. Vois où j'entends la parole soufflée des mineurs. Une cause suprême s'absente et brûle en la tête de chacun. Visages qui descendent au fond, comparables à la déperdition, à la disparition des signes en tout langage. Visages et voix qui ont cette patience d'incarner dans la détresse muette du fond. Visages et voix sauvegardés de tout vertige dans la prodigalité du jour. Pourquoi j'ai toujours ressenti les mineurs, confrontés à cette détresse du fond, à l'impassibilité muette de la pierre, leur retour dans la lente escorte des sols et l'invasion d'amertume des galeries, comme des êtres natifs et vulnérables d'un monde. Comme des revenants, saluant le jour depuis le poids austère et miséricordieux de leur disparition. Premier voyage. Matin endormi sous la lumière et les feuilles dans le jour des arbres, vide céleste. 20 ans après, presque, frissons à fleur de peau devant les mêmes paysages. Le roux penché des arbres qui me fait lever les yeux, petit frisson du corps, veste verte. Courbe du grand fleuve où lumine le vieil invisible, puis des pensées qui sont comme des oiseaux incolores dans la vitesse inapprise des gestes, l'immobile muet du désir, et des mots comme des touchés dans le grand vide irrévélé, clair, de la fenêtre du ciel.
Je remercie mon invitée Agnès Steff qui nous a présenté sa passion avec enthousiasme et a accepté de présenter quelques-uns des événements en poésie qui auront lieu cette année à Montpellier à partir du 7 mars autour du Printemps des Poètes. Merci Annie.
Merci beaucoup Marie-Agnès de m'avoir reçue.
Vous pourrez retrouver Jardin d'Isis et son hommage aux poètes vivant dans notre région et ailleurs chaque deuxième et troisième jeudi du mois de 12h15 à 12h45 sur Radio FM+.